j'ai rencontré la Boétie très vite en arrivant en France après qu'on m'a sorti de l'atoll. Hein, parce que en arrivant en France au début des années 80, je sortais de plusieurs années d'atoll, de la guérilla. On continuait à opérer un peu en Argentine, non, dans la résistance, on venait. Mais il y avait un truc qui pour moi était évident. C'était qu'on n'avait plus le socle théorique, idéologique, conceptuel qui nous permettait d'être trop sûr de ce qu'on faisait. C'est-à-dire qu'on était absolument sûr qu'il fallait renverser la dictature, on était sûr qu'il fallait la justice sociale, mais guère plus. C'est-à-dire que toutes les convictions modernes de gauche, les lois de l'histoire, patatine patatin, etc., étaient tombées et vraiment il y avait une éruption de la complexité. Là-dedans, on s'est mis à travailler pour essayer de comprendre le début de la modernité. Et on a compris, on a trouvé la Boétie et on a compris que ce jeune homme avait évoqué, même avant Spinoza, parce que Spinoza après le développe clairement, il avait trouvé ce que nous, ici en Occident, on appelait la complexité, non, suivant les concepts de Morin, qui voulait dire que l'histoire n'était pas si linéaire que ça, que c'est pas parce que quelqu'un était oppressé qu'il désirait absolument s'émanciper, chose quand même très étonnante, n'est-ce pas, pour la pensée moderne de gauche classique. Des camarades et des camarades sont morts pour distribuer des journaux dans lesquels on expliquait aux ouvriers, aux Indiens qu'ils étaient exploités. C'est-à-dire que l'hypothèse de base était, si tu sais que tu es exploité, tu te révoltes. Et voilà un jeune homme qui, tout au début de la modernité, avait déjà dit, pas du tout, au fait, non, il désire leur chaîne, quoi. C'est-à-dire il œuvre pour leur chaîne. Et ce n'est pas vrai que quelqu'un qui est opprimé désire seulement s'émanciper. Il peut aussi, pour un tas de raisons, que la Boétie ne développe pas.
C'est vrai.
La vérité, c'est qu'il ne développe pas, quoi. Mais voilà, c'est-à-dire c'est la rencontre totale. C'est-à-dire c'est un double, même en tant que chercheur, c'est quelque chose qui est très drôle parce que c'est cette idée que d'abord on trouve et après on cherche, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'en tant que chercheur, on ne cherche pas, aucun vrai chercheur est là en train de chercher. C'est-à-dire, en tant que chercheur, on trouve un truc qui interrompt, qui fait irruption dans nos certitudes, et après on se met à chercher. La Boétie était un trouveur-chercheur, il a trouvé. Et il a trouvé, et il a eu courage à cette époque-là quand même, dans laquelle tout le monde était convaincu que demain on allait rasser gratis quand même, pour voir dans les guerres...
Un projet humaniste quoi.
Absolument. Ouais, oui. Thomas Muntzer qui dit l'histoire a des lois, on peut les connaître et les modifier quand même, hein, c'est-à-dire contemporain. Hein. Et alors, le mec là, à ce moment-là, dans lequel l'espoir était une certitude encore plus concrète que le présent, n'est-ce pas? Le mec, il dit, attention, il y a autre chose. Pour moi, le génie total de la Boétie, c'est qu'il a trouvé. Et après, il n'a pas eu le temps de chercher, ni les instruments de chercher, c'est ce que je crois. Hein, c'est ce que je crois. Je crois que dans les discours de la servitude volontaire, nous, ce que nous allons trouver, c'est le titre.
Et ouais, une formidable intuition. Quoi.
Voilà, une formidable intuition. Le titre est une déclination plus ou moins dans laquelle ce jeune homme essaye de comprendre ce qu'il est tombé sur la tête, hein, ce qu'il a trouvé comme ça, d'un point de vue absolument événementiel, hein, c'est-à-dire non attendu. Et de ce point de vue-là, il ne fonde pas, mais il participe, il ne fonde pas parce qu'institutionnellement il ne fonde rien du tout, mais il participe quand même à ce qu'on appelle effectivement les lumières sombres,
les lumières noires,
voilà. C'est-à-dire qui est l'idée dès que, bon, Spinoza ou Leibniz, mais même Thomas More dans son Utopie, c'est drôle parce qu'il y a des gens qui se sont attelés à développer la cité idéale Utopia. Oui. Utopia n'est pas réalisable. C'est-à-dire que Utopia... Donc il y a quelque chose là, enfermé, non, crypté, caché, qui est un tout petit peu comme dans les tableaux où il y a, comment ça s'appelle là, les tableaux dans lesquels il y a parfois les découvreurs, non, il y a une tête de mort.
Oui, une sorte de vanité.
Une vanité, mais comment s'appelle ce tableau là? Oui, c'est une vanité, mais il y a un tableau.
Oui, je vois le tableau là, de Holbein.
Voilà, Holbein, bon, bref, une vanité. Oui, moi je crois que chez Thomas More, même dans l'Utopie, il y a une vanité cachée quelque part. Et la Boétie, non, la Boétie, il le dit. Non.
Il y a cette idée qu'en fait, il y a beaucoup de textes à son époque qui prétendent instituer le prince, quoi. Et lui, il dit, ça suffit pas, il faut instituer le peuple, quoi.
Ouais, lui, il dit, il faut instituer le peuple, mais à la fois, ce qu'il dit, si à mon avis, ça, c'est le côté lumière. Et le côté ombre, le côté noir, c'est qu'il dit, mais quand bien même, le peuple ne désire pas, de façon univoque, son émancipation.
Et vous attribuez ça dans votre introduction à finalement ce désir de soumission à une forme de pulsion de mort en fait. Alors, enfin, c'est moderne, hein, c'est
voilà,
un peu anachronique.
Mais la pulsion de mort, c'est une fiction théorique de plus, c'est-à-dire bien entendu rien de ça existe, c'est un modèle théorique qui sera dépassé bientôt, mais qu'on aura utilisé un certain temps. Pour dire encore une fois, attention, des lumières sans ombre, ça s'appelle la barbarie, un désir linéaire, c'est une horreur, n'est-ce pas ? Donc, cette tentative permanente de réintroduire une complexité, ce qui est intéressant chez la Boétie, c'est qu'il essaie de réintroduire cette vanité, cette complexité, en restant fidèle au désir d'émancipation. Et ça, c'est exactement ce qu'on cherchait, nous, au début des années 80. On était un groupe de responsables de la guérilla, on était des clandestins, on luttait les armes à la main, etc. On a eu, à l'époque, le courage, non pas physique, mais intellectuel, de dire, on va continuer à lutter, mais la Boétie a raison. On va continuer à lutter, mais la Boétie a raison. C'est-à-dire qu'on a dit, c'est vrai que c'est pas comme ça. C'est vrai que c'est pas comme ça. C'est vrai qu'il n'y a pas un monde de lumière qui nous attend. C'est vrai que les désirs et les ambivalences. Bon. Alors, la pulsion de mort est une façon de décliner cette idée. Qui est un défi pour nous, les gens qui pensons du côté de la liberté, de l'émancipation, pour nous que, je sais pas, que nous n'acceptons pas qu'il y ait un peuple qui est par terre, hein, les mecs, les femmes, les hommes qui sont par terre, et nous qui marchons, qu'on n'accepte pas ça. De dire, on n'accepte pas ça, on luttera toujours contre ça, on va chercher toujours des voies de solidarité, tout en sachant quand même que cette lutte-là n'a pas un point d'aboutissement final. C'est-à-dire que, et ça c'est très très dur, pour nous, et ça a dû être inimaginablement dur pour la Boétie dans son époque. Parce que notre époque est une époque de pessimisme. Alors, la Boétie, il apparaît quand même trop optimiste. Il apparaît comme trop optimiste parce qu'il garde quand même son désir. En tant que la Boétie, c'est tout à fait symétriquement l'opposé. C'est une époque d'un optimisme total. Et les mecs, pom, il met une vanité au milieu. Il met un bémol, un sacré bémol, qui est un bémol structurel. Pour moi, la Boétie, il n'y a pas une lecture machiavélique de la Boétie en disant il essaye de dire faites gaffe à cet écueil-là. Il y a d'autres gens qui interprètent la Boétie comme quelqu'un qui dit attention, il y a un écueil, le peuple en pouvant désirer sa servitude, il faut faire gaffe pour qu'il ne le désire pas. Non ? Et pour moi, non, pour moi, l'écueil que la Boétie introduit, il est structurel, il dit, il y aura toujours un désir de servitude, il y aura toujours une faille structurelle, et pourtant, le mec, il dit, il faut y aller quand même. Non ? Moi, je ne peux pas, avec toute mon histoire, avec tout ce que j'ai toujours fait et que je continue à faire en tant qu'engagement, je ne peux pas dire autrement que ça. De dire, je sais bien que tout désir d'harmonie, des terminus, tout le monde descend, des luttes finales et la barbarie. Et pourtant, je ne cède pas sur ce désir-là. Mais non pas comme un truc imaginaire, non pas comme un petit truc de dire je suis gentil, être honnête comme ça, comme un truc vital. Je conçois aujourd'hui, la réponse que moi je donne aux jeunes là-bas ici, que je me donne à moi-même, c'est de dire effectivement c'est comme ça, simplement l'objectif de la lutte c'est maintenir et développer la vie comme processus permanent. Non, la vie dans le sens de justice sociale, solidarité, en comprenant quand même que l'oppression c'est ce qui démolit la vie, tout bêtement, ça s'attaque à la vie. Alors donc la réponse que moi je lui donne et que je me donne à moi, est de dire il faut simplement comprendre que la lutte n'a pas comme objectif une harmonie finale, que la lutte n'a pas comme objectif une victoire finale, que la lutte est ce qui garantit la permanence et le développement de la vie dans toute situation.
Pour soi aussi, pour rester debout,
pour soi,
pour garder une forme d'énergie aussi personnelle et collective. Non,
personnellement, je ne dirais pas ça. Pour moi, plus mon expérience de vie et ma conviction, c'est que plus on se développe en tant que quelqu'un qui répond à l'époque, aux défis de l'époque, intellectuel, pratique, etc., moins on a une vie personnelle. C'est-à-dire que la vérité, c'est qu'il y a une sorte de désinvestissement de soi, non pas par un triste renoncement comme ça, mais par, au contraire, c'est que la joie de Spinoza, c'est-à-dire se rendre compte que le soi ne doit pas être une prison stupide et qu'au contraire, il faut se laisser traverser par la vie.
Hein. Papa, maman et le portefeuille.
Papa, maman, portefeuille, l'histoire clinique, c'est-à-dire tous ces trucs qui ont fait que depuis très très longtemps, je sois dans la psychiatrie alternative, c'est-à-dire de dire il y a une souffrance psychique, mais la souffrance psychique, elle est non pas un problème de l'individu, mais l'individu est la cause de la souffrance psychique. Non. Plus je me passe comme individu, plus je suis un reproducteur de la souffrance. Non. Bon, ces sujets-là, la Boétie ne les traite pas. C'est-à-dire, à l'époque de la Boétie, l'individu était une figure de l'émancipation totale.
Ben oui, on quitte Dieu pour finalement trouver enfin l'individu.
Absolument, c'est-à-dire que l'individu de l'époque de la Boétie est l'individu glorieux de l'émancipation, mais l'individu chez la Boétie était un plérum, c'est-à-dire c'était l'universel, c'était une forme de l'universel. Ça n'avait rien à voir avec l'individu à la fin du
cycle. La plus belle créature de Dieu.
De l'univers. Voilà. Et aujourd'hui, l'individu est tout le contraire. C'est la fin d'un cycle. Non.
Alors justement, la Boétie quand même dénonce les Russes de la... du tyran pour entretenir sa servitude, en particulier il insiste sur le pouvoir du divertissement. Mm-hmm. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment que ce divertissement là, cette volonté d'être dans des festivités permanentes, etc., contribue à diminuer, j'allais dire, une sorte d'énergie qui permettrait pas aux gens justement de,
non, je pense
d'être vivant, quoi, comme vous disiez tout à l'heure?
C'est, non, je pense que c'est beaucoup plus grave que ça. Je crois quand même que toutes les réseaux, nouvelles technologies, tout a fini par créer une sorte d'environnement qui réclame un feedback permanent qui fait que l'individu se vide. L'individu postmoderne, si l'individu de la modernité est l'homme comme Duby, dans l'histoire de la vie quotidienne, non, avec Ariès, non, il décrit la formation de l'homme de la modernité comme l'homme d'une intériorité, les jardins intérieurs, des dialogues intérieurs. L'homme de la postmodernité est un homme déplié, étant tout à fait déplié, un homme de surface, un homme qui se veut panoptique, transparent, et qui n'est même plus diverti. Il est absolument
vidé.
C'est un problème de vidage. Je pense que les divertissements, par exemple, tels comme Pascal vomi sur le divertissement, parce que c'est comme ça, c'est avec haine. Mais, c'est le divertissement qui s'adressait encore à un homme qui existait comme un pli. Aujourd'hui, malheureusement, il faut bien accepter que voilà, l'homme n'existe plus du tout en tant que pli. Et par exemple, pour vous donner un exemple, après, bon, ça peut être loin de l'affaire, mais nous, quand on lutte contre la médicalisation de l'enfance, la médicalisation en psychiatrie, etc., on s'est rendu compte au bout d'un moment que lutter contre la médicalisation Prozac, Ritaline, etc., l'homme modulaire, lutter contre la médicalisation ne suffisait absolument pas parce qu'on ne pouvait pas lutter contre la médicalisation au nom d'un sujet de l'inconscient ou de l'homme de l'humanisme. Qu'aujourd'hui, il faut trouver quelle est la forme de la nouvelle bête. Non, cette bête-là sera, de mon point de vue, un paquet, un hybride, effectivement, écosystème, artefactuel, organique, n'est-ce pas ? Mais par rapport à la Boétie, c'est très drôle parce que la Boétie, il écrit et il pense au début de l'homme, et nous lisons la Boétie à la fin de l'homme. À la fin de l'homme. Et la fin de l'homme, c'est le début d'autre truc, une autre configuration, une autre configuration organique. Mais c'est très spécial.
Il est condamné à la mélancolie alors ?
Non, non, je ne crois pas. Je crois pas. Je pense que c'est condamné à la mélancolie, ça serait avoir l'attitude de ceux contre lesquels la Boétie se battait, qui était ceux qui avaient la mélancolie de l'ancien régime, quoi, des autorités religieuses. Non, non, pas du tout. C'est-à-dire qu'il faut aller avec l'époque, c'est-à-dire de dire, bon, l'homme est détissé, très bien, qu'est-ce qui est en train de se retisser ? Parce qu'aller avec l'époque, ça signifie soit accepter l'artefactualisation, l'évidage total, la domination technico-économique, non ? Soit, effectivement, se poser la question de dire, mais ok, l'homme s'est détissé, qu'est-ce que ça retisse ? Pour moi, en tant que latino-américain, c'est plus facile que pour vous en tant que français, parce que, en tant que latino-américain, nous, on a au quotidien l'expérience d'autres cultures qui ne sont pas des cultures de l'homme. Par exemple, toutes les nations indiennes. Pour un Indien, si on dit mais quelle est ton unité, non, ben, son unité c'est lui, la montagne, le soleil, le lama, le chien. C'est-à-dire que moi je sais que je connais, si connaître, pas qu'intellectuellement, des gens pour lesquels effectivement l'unité, c'est-à-dire le jeu, ils disent jeu, ils disent pas jeu, non, comme pas mal de langues, il n'y a pas de jeu. Oui, en Guarani par exemple, pas mal de langues, il n'y a pas de jeu. Mais quand ils disent map, l'homme par exemple, c'est pas Pedro, c'est pas Marie. C'est-à-dire, c'est Pedro, Marie qui appartiennent à un ensemble. Non? Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut essayer de penser quel ensemble pourra protéger la vie, développer la liberté, etc. Qu'il ne soit ni Dieu ni l'homme. Hein? Et quand je parle de protéger la vie, etc., ça veut dire que pour moi, la solidarité, la justice sociale, etc., sont des fonctions vitales de la société. C'est pas une option, ce sont des fonctions vitales de la santé.
Alors justement, à votre avis, par quel processus individuel et collectif, le chemin vers une forme de désobéissance est-il encore possible ? Est-ce que ça... Enfin, dans quelle mesure justement cette lutte dont vous aviez parlé tout à l'heure est peut-être un chemin aussi d'éveil à soi, enfin, ou de construction de soi ?
Alors, je pense qu'aujourd'hui, la désobéissance est un principe de réalité. Parce que, au fait, comme on est dans une crise anthropologique, des principes philosophiques générales, et à vrai dire, il n'y a pas à qui obéir. Il n'y a pas à qui obéir. Alors, si je suis tout à fait dans une position d'une certaine. Compréhensible et lâcheté, je dirais, mais lâcheté quand même. je vais continuer à faire comme s'il y avait des autorités à qui obéir. Sinon, aujourd'hui, la position existentielle de l'humain est au bord de la frontière. C'est-à-dire aujourd'hui, les « on ne sait pas » et la condition humaine. Et la condition humaine, la condition de l'avancée, c'est-à-dire c'est les « on ne sait pas ». Et quand on ne sait pas, la question de la désobéissance, c'est pas une question, c'est une réalité objective. C'est-à-dire, je n'ai pas à qui obéir. C'est-à-dire qu'on est dans un moment historique d'une liberté énorme avec toute l'horreur que ceci implique. C'est-à-dire, une liberté énorme, c'est une horreur totale. C'est-à-dire, c'est très paniquant. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on est dans un bord de frontières dans lequel, eh bien, sauf les fanatiques, les gens qui se cachent derrière la religion, sauf des gens comme ça, ou des gens qui vont très 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 mal, qui souffrent beaucoup, donc leur seul objectif c'est la survie au jour le jour, bien entendu, là, alors avec tout mon respect, bien entendu. Sauf ces situations-là, des fanatismes ou des survies, tous ceux que, comme nous, qui avons un tout petit peu d'énergie libre, des possibilités de se rendre compte de ce qui se passe, bah, nous nous sommes au bord de la frontière. Quoi. Il n'y a aucune certitude, on ne sait pas si le désastre écologique il est total, on ne sait rien, quoi. On ne sait pas si la croissance, si la décroissance, si est-ce qu'il est possible de penser la solidarité d'une façon qui ne soit pas imaginaire. Donc la désobéissance est une condition réelle. Aujourd'hui, obéir, ça ne veut rien dire. Quoi. Ça ne veut rien dire. Obéir, ça veut dire fermer les yeux. Et ça n'a pas toujours été le cas. C'est-à-dire que dans des cadres historiques où ça tient le coup, obéir, ce n'est pas une folie. Obéir signifie être dans une tendance, dans un courant. Aujourd'hui, ça ne veut rien dire, obéir. Dans les cas des hommes comme nous, des hommes et femmes comme nous, qui avons le loisir donc, de n'être ni des fanatiques, ni dans la survie. Chose que ça fait quand même pas mal de gens.
Bon. Alors justement...
Non, ça ne vous a pas plu.
Si.
Non, mais pourquoi? Non, dites-moi des trucs.
Non, c'est un peu, comment dire... c'est un peu désenchanté.
Moi, personnellement, non, moi personnellement, je trouve quand même que c'est pas un désenchantement. Pour moi, c'est pas un désenchantement. Il y a quelque chose qui est très dur à avaler, mais qu'il faut avaler, il faut métaboliser, il faut pouvoir continuer. Qui est l'effet de comprendre que le négatif, la barbarie, tout ce que d'autres cultures appellent le sacrificiel finalement, ne va pas disparaître. C'est ça qu'il dit la Boétie. La Boétie, ce qu'il dit structurellement, c'est le négatif ne va pas disparaître. Or, tout l'Occident, à ce moment-là, pariait à la disparition certaine du négatif. Aujourd'hui, nous, même en tant que médecin, quoi, c'est-à-dire plus personne pense qu'on va guérir, on pense qu'on va trouver des équilibres avec la maladie. Des équilibres avec la maladie. Voilà. Alors, il n'y a pas un désenchantement. Ce qu'il y a, c'est une époque qui est vraiment d'une convocation très dure. Très, très dure. C'est un truc, moi, ça m'a toujours étonné qu'en Argentine, ça étonne tout le monde aussi, ou en Uruguay, au Chili, je vois. C'est qu'à l'époque de la lutte armée contre la dictature, des milliers de personnes cherchaient des contacts avec la guerrière. Des milliers, mais vraiment. Hein. Pas tous pour devenir des combattants, mais cherchaient des contacts avec nous. Aujourd'hui, que personne ne risque la torture, ni la mort, ni la tôle, mais que les risques et l'incertitude, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Parce que c'est un constat que moi j'ai la légitimité de le faire, parce que j'ai passé 10 ans à la guerrière quand même. Alors c'est un constat que j'ai fait et que j'ai dit putain de merde. C'est-à-dire, ils venaient à la première, le premier rendez-vous qu'ils avaient avec moi, j'étais officier, non et le premier rendez-vous qu'ils avaient avec moi en contact de la guerrière, ils pouvaient mourir là. Parce que le rendez-vous pouvait être pipé, et ciao. Jamais il a manqué des gens qui voulaient nous contacter. aujourd'hui que la lutte passe par s'écoltiner avec l'incertitude, dire bon d'accord, si le négatif ne va pas disparaître, comment est-ce qu'on peut penser la justice malgré ça? Il n'y a personne. Alors, je peux aller au bar, les flics ne vont pas arriver, mais les contacts non plus. Alors, ce n'est pas un désenchantement, c'est simplement une conscience objective du défi époque. C'est un défi énorme. C'est-à-dire, moi, j'appartiens encore à la dernière génération qui a pensé que le négatif allait disparaître. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que je regardais un petit gamin de la rue et je pouvais le regarder content. Parce que je disais, demain, mon pote,
ça va disparaître.
Tout ira bien. Aujourd'hui, je vois un gamin et je dis, oh putain de merde, il va mourir intoxiqué par l'alcool et on ne pourra même pas lui donner un dispensaire. Et comment est-ce qu'on fait pour lutter? Comment est-ce qu'on fait pour... non. Donc, il y a une réincorporation d'une négativité qui nous retombe sur la gueule. C'est là où il y a un dialogue avec les jeunes de la Boétie. C'est-à-dire les jeunes de la Boétie disent à un moment où tout le monde, je répète... Non,
le projet humaniste, tout le monde manifeste de l'optimisme, de l'énergie, voilà,
la
etc.
négativité va disparaître. Le mec, il dit, il y a du négatif. Et nous aujourd'hui, on doit lutter pour dire il n'y a pas que du négatif. Non. Et ça, alors là, c'est pas une croyance, c'est une certitude objective. Bien entendu qu'il n'y a pas que du négatif. Bien entendu que l'optimisme moderne, il est allé trop loin. Et le pessimisme post-moderne, pareil. C'est-à-dire la lucidité des petits cons post-modernes qui pensent que maintenant on sait que tout est négatif.
Tout est foutu.
C'est une connerie. La nôtre, sincèrement, je l'ai dit, la nôtre était d'une grande générosité, c'était une illusion d'une grande générosité. La leur est une illusion d'une grosse, grosse connerie égoïste, parce que qui dit tout est foutu, il s'apprête à jouir.
Ah oui, voilà. Il s'apprête à jouir. Que justifié, voilà. Quoi.
Absolument. Mais les deux sont d'une exagération totale. Alors, il n'y a pas à être désenchanté, il y a à assumer les défis. Et le défi, c'est de dire, bon, ok, d'accord, comment on fait pour lutter contre l'injustice? Comment on fait pour lutter contre la maladie? Comment on fait pour lutter contre les désastres écologiques? Comment on fait pour la solidarité? Tout en sachant que l'objectif, c'est pas en finir avec ce qui s'oppose. J'ai fait un point de ma vie théorique et pratique dans lequel ça ne me pose aucun problème. C'est-à-dire, il faut trouver les méthodes, les moyens de lutte, de recherche, d'intervention, qui cherche à intégrer organiquement la négativité. Alors je vous donne un exemple clinique, c'est-à-dire moi en tant que clinicien, j'appartiens, parce que vous avez entendu parler de David Cooper, l'antipsychiatrie, voilà, j'appartiens à cette génération-là, parce que David Cooper il était venu en Argentine, il avait contacté la guérilla, j'étais jeune étudiant de médecine à l'époque encore. Pour moi, la question ce n'est pas d'éliminer les symptômes de quelqu'un, n'est pas éliminer la faille de quelqu'un, c'est à travers les failles qui passe la lumière, voilà, c'est le credo de l'antipsychiatrie, hein. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a une faille, c'est à travers la faille qui passe la lumière. Il n'y a rien de plus horrible et dangereux, je le dis en tant que clinicien, qu'un homme normal. L'homme normal est un danger total. L'homme normal est l'homme qui, quand les clairons sonnent, va violer, tuer, torturer. L'homme normal, l'homme sans faille est une horreur totale. Donc, en clinique, la question, ce n'est pas de corriger la faille, c'est d'intégrer organiquement la faille. Eh bien, la lutte pour la justice suit les mêmes structures, la lutte pour la sécurité, pareil. C'est-à-dire, comment on peut intégrer les failles, comment on peut intégrer la négativité. Ceci, d'un point de vue un peu anthropologique, ça s'est dit, comment est-ce que notre société peut réintroduire des dimensions sacrificielles, non? Ça ne veut pas dire aller tuer une poule à la place de la nation, ça veut dire incorporer qu'il y a de la perte, qu'il n'y a pas de gains sans perte. À moi, ça ne me pose aucun problème, mais aucun problème pour continuer à travailler en Argentine, en Italie, en France, dans des trucs d'engagement clinique, des recherches au social, mais aucun problème. Et c'est pas un désenchantement, c'est juste de dire, bon, l'humanité a fait une expérience fantastique et terrible à la fois, dont la révolution culturelle peut-être chinoise était l'exemple archétypal, non? Parce que là on a voulu éliminer toute la négativité. Et alors on sait, n'est-ce pas? C'est-à-dire il ne faut plus jamais, parce qu'il n'y a pas, on ne peut pas éliminer la barbarie, parce que pour éliminer la barbarie, il faut devenir un barbare soi-même. Donc la question c'est, comment on fait avec la barbarie?
Alors justement, dans l'introduction que vous avez faite, à un moment, vous dites que peut-être que pour réussir à échapper au monde moderne que vous décrivez là, c'est lié à des rencontres humaines fortes, avec des livres, ou même d'ailleurs avec des paysages. Vous dites, voilà, alors, moi je suis père d'une petite fille, je me pose des questions hein, sur l'éducation que je dois lui apporter pour arriver à, voilà, à essayer d'avoir, d'être un peu libre, quoi.
Bien sûr.
Je me la pose aussi en tant que prof, par exemple. Hein. Et donc, j'aimerais que vous reveniez sur cette question des expériences fortes qui permettent peut-être à un moment de faire partie de ceux qui, un moment historique singulier, vont pas suivre la masse, quoi. Enfin, je sais pas, moi, j'ai été assez marqué par Terechenko, je sais pas si vous avez lu le bouquin là, sur la banalité du bien, la banalité du mal, qui dit que globalement, c'est si on essaie de faire le profil d'un juste, quoi, ou que ce soit au Rwanda pendant la Seconde Guerre mondiale, enfin dans d'autres situations, globalement, ce sont des gens qui ont eu, c'est ce qu'il dit, hein, souvent une éducation affectueuse forte et qui ont eu une éducation non autoritaire en fait, qui leur permettait de pouvoir créer une relation singulière au monde au moment où le monde il est si bizarre et au moment où le monde nous impose à ce que tout le monde suive, quoi. Et j'aimerais que vous puissiez nous parler de ça, parce que enfin, moi ça m'interroge intimement, quoi.
Oui, moi je crois quand même que c'est une question de rencontre. Moi je sais par exemple personnellement qu'il y a eu, bon d'abord ma mère est une juive française qui avait 8 ans quand s'est exilée avec ses parents en Argentine, alors il y avait déjà un truc un tout petit peu, bon, parce qu'il y avait beaucoup de nazis après un exil en Argentine, donc il y avait une ambiance par rapport au fascisme et tout ça, c'est une famille, typique famille juive de gauche, intellectuelle de gauche, bon voilà. Mais c'est pas ça qui m'a influencé moi, ce qui m'a influencé, mes premiers souvenirs, mais archi lourds, qui sont restés toujours là, c'était des indiennes boliviennes assises par terre à la porte du marché parce qu'on ne les laissait pas rentrer vendre leurs citrons et leur ail, ils vendaient des citrons et de l'ail, dans les marchés. Et ça m'a déchiré le cœur. Et j'étais mais tout petit. Et ma mère, elle ne m'a pas ni expliqué le monde, ni consolé, ni rien du tout. Elle m'a dit, oui, on ne la laisse pas, parce qu'ils sont racistes, ils ne laissent pas rentrer des indiens. Et tu sais, cette terre, pourtant, leur appartient. Alors, moi j'étais très petit, c'était très dur, moi je trouve que c'était très dur, mais c'est des rencontres dans lesquelles on se laisse traverser, on ne se laisse pas traverser. Je ne sais pas, peut-être mes cousins, ma soeur, d'autres, ils entendaient la même chose et...
Tu
ne se laissais pas traverser. Moi je sais que ce sont des points d'ancrage et de fidélité qui font que ça, ben voilà, c'est-à-dire moi, l'image, les Indiens, là, à la porte du marché, ou l'image des flics, des militaires, coup d'État après coup d'État, des trucs comme ça ont fait que c'était des rencontres comme ça, des expériences par lesquelles j'étais traversé. C'est-à-dire que le marxisme, le Che Guevara, Trotsky, l'hippisme, etc. C'est venu après, mais c'est venu pour un peu formater, un peu formater.
Ses premières émotions.
Ses premières émotions. Mais c'était des rencontres dans lesquelles on ne reste pas sourd. Je pense par exemple à un musicien et quelqu'un qui tout à coup se laisse traverser par des questions épocales qui posent la musique. C'est-à-dire que la musique pose une question. Et alors, soit le mec il fait sa petite musique, comme ça tranquille, en pensant est-ce qu'il va passer à la radio, ou est-ce qu'il va vendre. Soit le mec il dit, mais ça m'interroge. Comme un peintre qui s'interroge, la société interroge comme ça. C'est-à-dire, ça interroge. C'est-à-dire qu'on a beau regarder ailleurs, on a beau faire le con, poum, ça revient. Et alors, c'est laisser traverser est quelque chose qui n'a pas, de mon point de vue, trop d'explications. Pourquoi certaines personnes se laissent traverser, d'autres ne se laissent pas traverser. Je ne pense pas que ça a à voir avec forcément l'éducation. Je pense que ça a à voir avec une constellation très difficile à définir, qui fait qu'au milieu de ces constellations, certaines femmes, certains hommes ne vont pas accepter de fermer la porte. Moi, je pense par exemple.
Ça paraît presque infra-intellectuel, parce que dans les profils qu'on lit, enfin, justement, dans ces bouquins-là, là, ils disent que les justes, ils prennent un certain nombre d'exemples sur lesquels on a pu travailler sur vraiment la psychologie de ces personnes-là. Ils disent qu'en réalité, l'acte de désobéissance qui les met en danger de mort est assez infra-intellectuel. C'est-à-dire
assez
que.
Infra-intellectuel.
Ouais, on le fait parce qu'il fallait le faire. Et en fait, il y a une vraie difficulté pour les personnes qui l'ont été de pouvoir définir que c'est pour des raisons idéologiques. Tout ça, ça paraît complètement
superficiel. Moi, ce que j'ai vu, c'était il y avait deux modes de se révolter à l'époque, non? Donc, la fumée, la torture, la mort, la tol. Il y avait ceux qui les faisaient dans une certitude fermée, qui étaient les militants plus marxistes, plus comme ça. Et toujours étaient très dangereux parce que eux, il y avait quelque chose dans lequel ils s'est absenté à la situation. Ils s'est absenté à la situation. C'est-à-dire qu'eux, ils avaient un dogme et ce dogme-là faisait paravent par rapport aux situations. Donc l'indien, l'injustice, peu importe quoi, était simplement la petite illustration qui expliquait leur dogme. Et il y avait d'autres gens avec lesquels je me sentais plus proche, hein, dans lesquels les différentes explications théoriques étaient là, grosso modo, pour mettre quelques paroles, pourquoi pas, à quelque chose qui était très profond, et avec un noyau non explicable rationnellement, qui était l'effet de dire non, Et le problème, c'est que les dogmatiques sont très dangereux parce que les dogmatiques, à vrai dire, ils s'en foutent à la limite de l'injustice, donc ils peuvent défendre l'injustice. Et moi, personnellement, je partiens à ce que. J'ai jamais trouvé une raison quelconque pour défendre l'Union soviétique, Cuba, Chavez, qui que ce soit, par rapport à des trucs que moi je trouvais que. J'ai jamais trouvé qu'il y avait des fins qui justifiaient des moyens. Non. Alors, il y a la différence entre Chavez et l'Union soviétique, bien entendu, non? Mais, ce que je n'ai pas cherché ça. Et je pense qu'il y a deux façons de se révolter. Voilà, une est chercher à adhérer, contester l'ordre du monde par rapport à un autre ordre du monde. Et l'autre est, dans quel que soit l'ordre du monde, nous on dit non. Le problème des contestateurs dogmatiques, c'est qu'objectivement, par mettons socialisme et capitalisme, le capitalisme est toujours infiniment plus puissant que le socialisme et le communisme, parce qu'il existe. C'est-à-dire que c'est un principe philosophique de base. C'est-à-dire que tout ce qui existe est plus puissant que ce qui n'existe pas. Et alors donc, là-dessus, ils sont obligés de forcer la réalité. Moi, je crois qu'aujourd'hui, quand on dit pourquoi est-ce qu'on peut être dans la joie, de la solidarité, de la lutte, je ne sais pas, c'est-à-dire là, chez un laboratoire social à Rive-Orangis, il y a 3 semaines, 4 semaines, les maires socialistes qui interdisaient les enfants roms d'aller à l'école, il a fait venir le préfet, ils ont rasé les camps. Alors nous, on a demandé, bêtement, on a demandé qu'il attend que les enfants s'en aillent, qu'ils ne voient pas leur maison aplatie. Et le préfet, il a dit, mais pas du tout, vous travaillez dans un service de pédopsychiatrie. Non? Et il a rasé les trucs. Donc nous, on a logé les roms dans une MJC qui nous sert comme base pour le laboratoire social, etc. Nous sommes menacés de tous les maux de la terre. J'étais très surpris parce que j'ai appelé les membres de l'IB et ils sont tous les deux réagi bien. J'étais très surpris, donc parfois. Mais ça, c'est là-bas. En Argentine, il y a 2 jours, nous avons un laboratoire de psychiatrie alternative dans un hôpital central à Buenos Aires. Ils sont rasés, ça. Mais là, ils sont tirés. Les flics, ils sont tirés. Il y a eu
Ils ont tiré sur
sur des fous, des médecins, des psychologues, des infirmiers, dans un lieu de psychiatrie alternative que, bon, à laquelle je participe, non, depuis très longtemps. Bon, donc, il y a ces horreurs-là. Et là, on dit, mais l'horreur est là. Si, l'horreur est là, comme la maladie est là. Et notre boulot, c'est de chercher des formes puissantes de résister à ça et créer de nouvelles formes de solidarité.
Alors, vous savez que Labossi, qui est mort à 32 ans, là,
ouais.
il a écrit un livre, une sorte de rapport, en fait, qui a été retrouvé il y a pas très longtemps. Montaigne en parlait, mais il avait complètement disparu pendant des siècles. Il a été retrouvé au début du XXe siècle, il a été publié, et dans ce bouquin, on pourrait dire, de maturité, ou dans ce rapport plutôt, parce que c'était pas vraiment un bouquin, c'est assez troublant, parce que dans les commentaires qu'on lit de Labossi, on dit que le Labossi mature a trahi en fait le jeune homme, l'adolescent, puisque dans ce bouquin, en fait, il dit qu'il faut revenir à une forme. D'abord, il faut essayer de limiter, enfin, d'annuler le protestantisme, en disant finalement la seule chose pour éviter la violence, il faut que tout le monde redevienne catholique. Alors il demande après, enfin, il indique, hein, c'est quand même assez troublant. Hein, donc il dit que tous ceux qui doivent contester le roi doivent être quand même. Je dis pas liquidé, mais c'est quasiment ça quand même dans le texte, c'est quand même assez troublant. Et il dit voilà, bon, en gros, les guerres de religion, on s'en sortira pas, donc il faut que tout le monde redevienne catholique. Bon, évidemment, il faut que l'Église se réforme de fond en comble. Donc en fait, quand il décrit ce que l'Église devrait être, en gros, c'est ce que disent les réformés. Mais on a le sentiment qu'en fait, ce tout jeune homme qui était quand même pétri des idées antiques, voilà, c'est parce qu'il y a quand même beaucoup de réminiscence antique dans son propos du discours de la servitude volontaire, ben j'allais dire il est passé en gros quasiment de l'éthique de conviction à l'éthique de responsabilité. Et donc moi c'est amusant parce que à Sarlat j'en ai parlé avec des personnes un peu âgées, instruites, etc., et qui m'ont dit mais la preuve c'est que en vieillissant on devient conservateur, hein, et que voilà, se coltiner au réel c'est finalement accepter une grande partie du réel.
C'est, non, je crois que mis à part ces choses-là que je comprends cliniquement, je comprends ces propos, mais comme je veux comprendre cliniquement ces propos-là, d'un point de vue beaucoup plus objectif, une partie du réel est la défense et la sauvegarde du réel dans la lutte contre la destruction de la vie. Donc, quand les gens... vous ne savez pas que ça c'est vieillir, mais vieillir c'est quand même peut-être avoir des petits bobos qui font comme un rage des dents, fait que le monde disparaît derrière le rage des dents, sauf que bon voilà, alors donc petit à petit s'occuper de ses petites affaires, ses petites merdouilles. Ça c'est une façon de vieillir. L'autre façon de vieillir, c'est de assumer le fait qu'un vieux a des responsabilités dans la transmission de la défense de la vie. Donc, quand ces pauvres vieux, ils disent « j'ai compris que je dois m'occuper de mon cul », chose que je n'étais pas proctologue, mais ça peut faire très mal le cul, quoi. Eh bien, j'entends ça avec peu de sympathie, au mieux cliniquement, mais la vérité, c'est que accepter le réel signifie accepter que le réel est un défi. Ce défi-là passe par le fait que les jeunes peut-être sont des guerriers et les adultes sont ceux qui doivent métaboliser ça, expliquer pour que des guerriers continuent à guerrier de la façon la plus intelligente et plus possible. Mais cette histoire de que en devenant vieux, on devient conservateur. Même l'histoire actuelle la dément, parce que aujourd'hui pour aujourd'hui, c'est plutôt les jeunes qui sont en train de devenir très conservateurs et de droite.
Non, mais ça, je peux te le dire. Enfin, c'est impressionnant.
C'est impressionnant. C'est impressionnant. Ça sont des conneries absolues, quoi. Comme dire, tout le monde cherche son intérêt. Tout le monde cherche son intérêt. Par exemple, voilà une grande vérité. Le problème, c'est quel est mon intérêt. Mon intérêt est, en tant qu'espèce vivante, de sauvegarder la planète. Mon intérêt est, en tant qu'espèce humaine, de sauvegarder la culture. Mon intérêt est, en tant que Miguelito, mon compte en banque. C'est-à-dire que mon intérêt est un ensemble à géométrie très variable qui n'est pas défini en soi. Donc, quand on dit en vieillissant, je me quitte de mon intérêt, moi je pense que ce sont des pauvres vieux de merde. Parce qu'en vieillissant, non mais vraiment, en vieillissant...
On en parlait dans le métro en venant, on parlait de Phil Kencrot.
Non mais bien ça, en vieillissant, mon intérêt doit être, de plus en plus, la transmission de la vie, quoi, et de moi à moi. Il n'y a rien de plus nauséabond qu'un pauvre vieux qui s'accroche comme ça. Mais non, ni le vieillissement, ni la mort, c'est un problème, parce que la vie, c'est pas à toi, ça t'appartient pas, tu vois. Et alors, cette idée-là, dès qu'aujourd'hui on est lucide et sage, avec tous ces jeunes, lucides et sages aussi, parce qu'on est conservateur, aujourd'hui on est dans une putain de restauration, mais qui est mille fois pire que la restauration non, à l'époque, non, post-napoléonienne. Et il faut résister contre ça parce que la logique, la sagesse, la rationalité est du côté de la révolte. Il n'y a pas de logique, ni rationalité, ni sagesse du côté des conformistes.
Alors, je reprends le bouquin de Terenchenko, là, qui explique que le principe qu'on voudrait universel, que finalement, que c'est l'égoïsme qui gouverne les gens, il a été aussi, alimenté par Freud.
Absolument, ouais.
Et que dit, alors lui, il essaye de montrer ce que pourrait être une forme d'altruisme non sacrificiel. Et c'est ce que j'entends dans votre propos.
Bien sûr, parce que c'est-à-dire... voilà, l'égoïsme, c'est un tout petit peu ce que je veux dire par mon intérêt. L'égoïsme, tout dépend quelles sont les limites de mon ego. Alors, Plotin, par exemple, il dit dans les Énéades, je ne peux jamais dire jusqu'ici c'est moi. C'est-à-dire, jusqu'où c'est moi? Moi, c'est moi et ceux qui sont mon sang, ma famille. Moi, c'est moi et mes voisins. Moi, c'est moi et ma nation. Moi, c'est moi et l'écosystème. Donc, c'est très bien de lutter pour soi. Il reste à définir qu'est-ce que c'est soi. C'est-à-dire, alors, moi, je crois que sincèrement, alors là pour parler de quelque chose que, alors là je me recontrebranle, non, qu'est-ce que c'est une vie réussie, parce que je m'en branle et je trouve que ça sont des conneries. On n'a pas à réussir sa vie, on a à être un con comme tout le monde et faire ce qu'il faut faire le mieux possible. L'objectif c'est pas soi, c'est pas se réussir, mais si quelque chose ressemble à réussir sa vie, c'est vraiment en avançant en âge, en arrivant vraiment à la grande vieillesse, on devient presque inexistant en tant que soi, parce qu'on est vraiment dispersé,
traversé.
On n'est qu'un carrefour, quoi. On n'est qu'un carrefour, quoi. Dans lequel, quand le vieux qui va mourir, d'accord, c'est un peu triste que le vieux meure, mais ce qui meurt, c'est la partie congrue, quoi. Parce que si le vieux, la vieux, sont vécus, ce qui meurt, c'est vraiment la partie congrue, quoi. C'est pour ça que c'est si triste la mort d'un jeune, d'un enfant, parce que y a plus de quantité qui meurt. Quand un jeune meurt, il y a beaucoup plus de morts parce qu'il s'est laissé traverser moins, il s'est fécondé moins. Alors ce que j'ai dit là, c'est tellement banal que seulement la canaillerie de notre société actuelle peut faire oublier ça. Donc,
Mais il y a quand même globalement ce que vous êtes. Soyez, pardon.
Non, vas-y.
Il y a quand même une baisse de vitalité. On observe quand même une forme de baisse de vitalité dans le monde postmoderne.
Qu'on se trompe des sujets de la vitalité. À l'époque de la Boétie, tu vois, comme dans les Galilées de Brecht, même le dialogue de Beaumont de Galilée, il y a une baisse de vitalité. Dès l'instance jusque-là vitale, qui était Dieu et l'Église. Et la vitalité commençait à se manifester dans un autre truc qui allait devenir l'homme.
C'est Foucault, quoi. Enfin,
voilà. Absolument. Explique Foucault. Absolument. Et la vérité, c'est qu'aujourd'hui, la vitalité, il faut comprendre quelle est la nouvelle alliance, comme Périgogine et Sanger parlent, quelle est la nouvelle alliance, où la vitalité commence à apparaître. Alors, il faut être un guetteur, quoi. Il faut voir de quel côté il y a des écosystèmes, des unités. Mais cette nouvelle unité sera une unité territorialisée qui va intégrer l'écosystème, des segments techniques, des segments humains, et qui ne sera pas humaniste.
C'est-à-dire... Ouais, pas humaniste au sens où au XVIe siècle où on croyait qu'on
allait
expurger...
Non, pas humaniste dans le sens très concret de que l'homme ne peut pas être à la mesure de toute chose. C'est-à-dire que l'homme doit trouver des mécanismes concrets d'autorégulation de sa puissance. Aujourd'hui, un défi fondamental est que la technique et la science et l'économisme ne trouvent pas des mécanismes d'autorégulation de leur puissance. Donc, effectivement, par exemple, un problème de l'écologie, mouvement dans lequel j'appartiens, je m'identifie effectivement, c'est qu'il n'y a pas d'écologie humaniste. L'écologie doit effectivement se centrer autour de nouvelles unités qui ne peuvent pas être humanistes parce que l'humanisme se révolte contre des mécanismes d'autorégulation de l'espèce humaine. Et l'espèce humaine doit trouver des mécanismes d'autorégulation. Moi, je travaille en tant que chercheur en biologie, c'est ma recherche, c'est ça, c'est exactement ça. Il faut savoir qu'aujourd'hui, un IA artificiel, intelligence artificielle, tous ces trucs nano, génie, génétique, etc., c'est on va vaincre la mort, on va vaincre la maladie, on va... Et...
Donc là, tu vois une forme d'hubris un peu humaniste, écoute, un peu comme on le dénonçait tout à l'heure.
Mais absolument, c'est-à-dire qu'une vie sans limite, ça s'appelle les cancers, tu vois. Ça s'appelle les cancers. Et une société sans limite, ça s'appelle la barbarie. Alors, aujourd'hui pour aujourd'hui, effectivement, nous devons trouver les mécanismes d'autorégulation qui ne sont pas des mécanismes de régulation fanatique ou religieuse, mais des mécanismes d'autorégulation qui protègent la vie. Ces mécanismes d'autorégulation vont déplacer la fonction sujet, pour parler comme ça, de l'homme à quelque chose de nouveau. Et ça, on le voit déjà, tu vois, par exemple, il y a des lois des droits de la mer. Droits de l'environnement.
Oui, c'est vrai. Pour l'environnement, il a...
Tu vois, il y a des nouveaux sujets des droits.
C'est vrai.
Donc,
des animaux.
Droits des animaux. Donc, on voit bien que, d'une façon très peu compréhensible pour nous en tant que contemporains, tu vois, cette nouvelle alliance...
est en train d'émerger. Il y a des champs d'expérimentation
y compris les droits, tu vois, que c'est un champ dont je n'ai rien à foutre, en principe, tu vois. Mais je ne peux que constater qu'effectivement, si tu veux, qui est droit des animaux, droit de la terre, droit de la mer, droit de l'atmosphère, ces droits-là qui disent mais à qui je dois payer, tu vois, si je viole ces droits-là, hein, ben, tu vois, ça crée, tu vois, des nouvelles questions. Ces questions-là sont la matérialisation de la fin de l'homme. C'est-à-dire que l'homme doit cohabiter avec d'autres sujets de droits non humains. Ou bien accepter la dictature de l'économie et la technique non humaine. Donc soit il y a une alliance, tu vois, du vivant avec d'autres sujets de droit, soit on accepte.
Et avec des copains, l'année dernière, on a fait venir Isabelle Stenger, c'est
ouais,
ça
ouais.
Et il nous a parlé de ça, c'était vraiment absolument passionnant.
Ah oui. Ouais.
Effectivement, elle est très impliquée.
Elle, c'est une des premières à avoir développé ça avec Guattari, Deleuze. Et son bouquin avec Prigogine s'appelle La Nouvelle Alliance.
Oui, c'est vrai.
Qui est un bouquin dans lequel, dans le monde de vie scientifique, elle cherche à penser ça. Quelle forme aura la nouvelle bête, tu vois, ça...
Alors, y a une phrase qui m'avait frappé dans l'introduction que tu avais faite là. Où tu reprenais Deleuze, c'est une phrase que j'ai dite à mon frère hier, c'est marrant, et que j'ai écrit à Ciné pour le remercier d'avoir fait un petit dessin. C'était que le tyran a besoin d'hommes tristes pour assurer sa tyrannie, et les hommes tristes ont besoin de tyrans pour justifier leur tristesse.
Absolument, ouais.
Et voilà, ce qui me séduit, c'est que dans l'échange, voilà, j'ai quelqu'un qui n'est pas désenchanté, qui n'est pas triste, et qui est plein de belle énergie, quoi.
Non, en plus, je te dis comme ça pour finir, parce que tu rends bordel là. Et je pense que optimisme et pessimisme sont des choses très subjectives. La question c'est arriver à ne pas être vaincu par la peur et la tristesse. Et la seule possibilité d'être vaincu, c'est agir. Quand tu agis, tu vois, si tu es un optimiste et un pessimiste.
Oui, Sartre dit ça aussi, si voilà, on est en accord avec soi.
Absolument. Tu sais, je peux t'assurer que j'ai connu d'un jour au lendemain le passage en Argentine. Les jours où j'ai eu conscience très 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 jeune que j'étais en contact, tu vois, j'étais pas un combattant, tu vois, j'étais en contact avec la résistance, j'avais plus peur. Et pourtant Dieu sait que j'ai passé à côté d'un corps des flics, des militaires, et c'était la peur permanente, la peur permanente. Et c'était comme un truc magique, tu vois. C'est-à-dire, le lendemain que moi, d'un point de vue conscient, c'était trois copines que je connaissais, qui faisaient du théâtre avec moi, moi j'étais hippie, tu vois, je jouais dans un beau rock, tu vois. On se voyait tout le temps. Mais je savais qu'en allant à cette réunion-là, ces jours-là, c'était pas pareil, tu vois. La peur est disparue.
Et c'est ce que dit Daniel Cordier quand il parle de Jean Moulin. Il dit qu'en fait, voilà, c'est qu'une idée, c'est que la question de la peur, elle n'est plus là.
Alors, donc tu fais attention.
Il y a la gestion du risque et tout ça, mais c'est pas,
voilà,
pas la question.
Il y a des risques, ouais. Tu vois. Parfois tu es paniqué. Parfois tu es paniqué, à certains moments tu es paniqué, je sais pas, mais c'est pas la même peur, tu vois. Parfois il y a comme des retours, tu vois, dans lesquels tu doutes de l'efficacité de ton action, mm-hmm. Tu penses que tu vas être laminé, tu vois. Donc je me souviens de la vérité, pour être honnête, je me souviens de nuit entière sans pouvoir dormir parce que j'avais très très peur après un combat ou des trucs comme ça, ou quand il y avait beaucoup de chutes, dans l'atoll, dans 4 ans et demi, tu vois, dès qu'on te va te
4 ans et demi,
ouais, tu passes en atoll, on va te retorturer, ou des trucs comme ça, tu vois, c'est vraiment, tu vois, tu as une peur panique. Mais dans les pires situations, c'est de, effectivement, aussitôt tu te reprends un peu et tu te dis, mais qu'est-ce que je fais là, par où passe la chose, et la chose passait toujours quelque part, tu vois, la chose passait par quelqu'un qui était un peu plus démoli que toi, t'arranger pour tu vois, faire je sais pas quoi. Et aussitôt tu pouvais un peu maîtriser ça, tu vois, ne pas te laisser envahir par ça, et dire, bon, si je meurs, c'est pas grave, tu vois, c'est bon. Après tout, qu'est-ce qu'il va, tu vois, voilà. Quand tu pouvais faire ça, bah, effectivement, tu es. Et c'est ce qu'ils essaient, tu sais, les tortionnaires, c'est ça, les tortionnaires essaient de faire que tu ne sois qu'un bloc de panique, tu vois. Que tu sois un bloc de panique, tu vois, que tu puisses plus agir. Quoi.